Le conseil départemental et Radio Alpa vous présente Sport en Sarthe.
Bonjour et bienvenue dans Sport en Sarthe, une émission en partenariat avec le conseil départemental de la Sarthe qui met en avant la pratique du sport dans le département à travers ses différents acteurs, associations, structures et entreprises. Aujourd'hui, premier bilan du mur des rêves solidaires, le nouveau projet hors norme de Jean-Charles Rioton, animateur sportif à l'Anibat Tennis, un projet organisé en lien avec les Jeux Olympiques et Paralympiques 2028 de Los Angeles. Publics, sportifs et associations, tous se réunissent pour accumuler 9300 km solidaires. Puis nous serons avec le Hockey Club du Mans, le seul club de hockey sur glace en Sarthe, cherche de nouvelles recrues et fait ses portes ouvertes, ce sera le 6 septembre. On reçoit le président de l'association pour découvrir ce sport, esprit d'équipe, tactique, dextérité, le tout au frais. On commence tout de suite avec notre premier sujet du jour.
Radio Alpa, l'alternative.
Le mur s'agrandit, pas un mur qui enferme, pas un mur qui sépare, mais un mur qui bâtit, qui relie. C'est le projet du mur des rêves solidaires, mené par l'animateur sportif Jean-Charles Rioton de l'Anibat Tennis, lancé le 2 avril dans le cadre de la semaine olympique et paralympique. Ce grand défi collectif mobilise associations sportives et publics pour accumuler 9300 km. C'est la distance entre la France et Los Angeles, prochaine ville olympique. Alors où en est-on et quelles sont les prochaines étapes? On fait le point avec Jean-Charles Rioton. Bonjour.
Bonjour Charlie.
Alors d'abord, peut-être rappelez-nous, qu'est-ce qui est à l'origine de ce projet en fait?
Ça fait maintenant plusieurs années qu'on met en place des projets à connotation sportive, solidaire, éducative. Et c'est vrai que l'an passé, on avait mis en place un gros projet sur le harcèlement scolaire avec l'idée de réaliser 800 000 échanges de balles en soutien aux 800 000 enfants victimes de harcèlement scolaire. On avait réussi à finaliser ce projet avec une grande étape en juin dernier. Une grande balle solidaire s'était envolée et on s'est dit cette année, on va essayer de mettre en place un nouveau projet qui s'appelle effectivement le mur des rêves solidaires avec cette idée de faire 9300 km en coopération avec des associations, des EHPAD, des IME, avec cette volonté de rallier toute génération.
Et un projet qui a trouvé du soutien, notamment de la part des institutions.
Exactement, on a Amélie Oudéa-Castera, présidente du Comité National Olympique et Sportif français, qui est marraine du projet. Et on a le ministère des Sports qui parraine officiellement ce projet depuis maintenant quelques mois. Donc c'est vrai qu'en termes d'institution, on a un relais et un suivi qui est particulièrement élevé.
Et alors où en êtes-vous aujourd'hui, Jean-Charles Rioton? Qu'est-ce qui a été accompli?
Alors pour le moment, on a réalisé 5 grandes étapes majeures. On a dépassé les 1000 km solidaires depuis maintenant quelques jours. On en est exactement à 1083 km. La dernière étape était à Tignes, puisque le projet a été délocalisé sur une étape vendredi dernier. Au niveau des étapes qui ont été faites en Sarthe, on a une joueuse de tennis professionnelle qui est venue il y a environ un mois, donc on a fait plus de 550 échanges solidaires qui ont été convertis en kilomètres. On a le champion et athlète paralympique Frédéric Cataneo qui est venu et on a organisé une course inclusive avec lui en fauteuil et les enfants qui couraient derrière. Donc en termes d'image, ça donnait quelque chose de particulièrement fort. Et donc en fait, l'idée, c'est qu'à la fin de chaque défi, de chaque étape, ça donne accès aux enfants et au public à l'écriture de leurs rêves sur une grande fresque collective. Et on compte actuellement plus de 580 rêves qui ont été inscrits.
Et alors juste, une étape qui a été délocalisée à Tignes, c'est où Tignes?
Alors Tignes, on est dans les Alpes. Et donc effectivement, le projet étant parrainé par le ministère des Sports, on a eu des demandes du côté de Strasbourg, du côté de Lille, du côté de Vannes, Quiberon et Chamonix et également Tignes. Et donc Tignes, les associations ont mis en place une étape vendredi dernier autour du lac de Tignes. Il y avait énormément de participants et ils ont fait une étape à leur échelle. Et voilà, de nouveaux rêves qui nous ont été envoyés par les animateurs.
Et alors qui est mobilisé sur ce défi en fait, qui participe à accumuler des kilomètres? Vous parliez d'enfants, c'est que des enfants qui accumulent ces kilomètres?
Non, en fait là l'idée c'était de faire un lancement très très fort pendant 3 3 mois. Donc on a eu cette chance d'avoir un relais médiatique assez, assez important et beaucoup de personnalités aussi qui ont participé à ce projet. On a effectivement sur les premiers mois fait des étapes auprès des enfants. Maintenant, à partir de septembre, on va essayer de mettre en place des animations, des activités auprès des EHPAD, donc des seniors, des personnes âgées, mais également des IME, des personnes en situation de handicap, des adultes qui voudraient éventuellement suivre ce défi et surtout faire partie d'un projet amenant vers les Jeux Olympiques et Paralympiques de Los Angeles 2028 dans un premier temps, puis éventuellement une deuxième étape vers les Alpes 2030.
Vous faites aussi intervenir, vous en avez parlé, des sportifs de haut niveau. Pourquoi les faire intervenir sur ces événements?
Parce que déjà, en termes d'identification, c'est vrai qu'on a un slogan qui dit que derrière chaque champion, on a un enfant qui un jour a osé rêver. Donc c'est vrai que si ces champions lancent des défis à tout type de public, on crée une interaction entre champions, amateurs, et c'est un peu ce qui a fait la force de nos projets depuis maintenant 5 ans. Donc c'est retrouver ce sur quoi on se bat depuis maintenant quelques années et essayer de rassembler tout le monde. Voilà, on a la championne de basket Elena Siak qui était venue il y a maintenant 2 mois et demi, 3 mois. On lui a lancé un défi solidaire de faire 2028 mètres avec une classe, donc hors son sport de prédilection, parce qu'elle est basketteuse professionnelle. Elle a joué le jeu, les enfants ont suivi, et puis s'en est suivi une séance de dédicaces, des autographes, enfin voilà. Le but, c'est de susciter l'émerveillement, toujours chez les enfants, mais aussi chez les passionnés de sport, en créant ces moments de rassemblement.
Donc on l'a dit, dernier événement en date, c'était à Tignes le 3 juillet. Quelles sont les prochaines étapes de prévues?
Alors l'idée, c'est qu'on essaie de mettre en place un grand relais solidaire en septembre, à la rentrée, éventuellement sur la commune de Vibray. Et on a également l'idée de faire venir Tony Estanguet. On lui avait lancé un défi lors du lancement du projet, défi qui avait été accepté, et du coup depuis on a eu son attaché de presse, on a essayé de voir un peu quel serait le meilleur moment pour le faire venir. On est parti sur la semaine olympique et paralympique 2027, donc pourquoi pas essayer de créer cette année encore plus d'interactions, d'activités avec tout type de public pour multiplier les défis, multiplier les rêves associés à cette fresque nationale et collective, et puis pourquoi pas faire venir Tony pour qu'il participe lui aussi à son échelle à ce projet en lançant un défi à un public sur une commune sartoise.
Et qu'on comprenne bien comment en fait ils sont accumulés ces kilomètres. Vous parlez de défis sportifs, ça peut prendre n'importe quelle forme, vous disiez des échanges qui sont convertis en kilomètres, comment ça fonctionne concrètement?
Alors en fait c'est très simple, si vous avez, on a même une plateforme Strava actuellement où tous les gens peuvent rejoindre cette plateforme et contribuer à leur échelle en faisant de la course à pied, en faisant du vélo, en faisant n'importe quel type d'activité. Pour être concis, en fait si un champion lance un défi à 10 enfants de faire 2028 mètres par exemple, on multiplie les mètres réalisés par le nombre de participants et on arrive à 20 km qui sont comptabilisés justement pour ce grand projet. On a éventuellement Nicolas Karabatic qui va peut-être participer au projet l'an prochain en coopération avec le club de hand local. Donc là l'idée ça serait de marquer 2028 buts durant l'année par l'ensemble des équipes et on multiplierait du coup les 2028 buts par la distance de 9 mètres entre la zone et le but, ce qui ferait Charlie combien, 2028 multiplié par 9 mètres, on est à peu près
c'est à peu près beaucoup, ouais.
À peu près 180 km. Bon, bref, l'idée c'est que les sportifs interagissent, qu'on ait des personnalités qui sont en lien avec nous et voilà, et moi à titre personnel je me suis engagé dans un défi de réaliser 2028 km en trail d'ici le 1er janvier 2028, donc j'en suis déjà à plus de 400.
Et ce défi personnel, les kilomètres que vous parcourez personnellement sont rajoutés au
exactement.
Projet global?
Tout à fait, donc ces kilomètres-là sont ajoutés au projet, donc il y a déjà 400 kilomètres qui ont été faits depuis maintenant 2 mois et demi, avec le marathon du Mont-Blanc la semaine dernière, le trail de Saint-Jacques il y a maintenant 2 semaines, donc 88 kilomètres avec 3600 mètres de dénivelé, de ce temps-là c'est sympa, enchaîné sur le marathon du Mont-Blanc, donc plus la préparation derrière, donc plus de 400 kilomètres effectivement déjà réalisés à ce jour, et comme je le disais tout à l'heure, la plateforme Strava qui est maintenant en place, et on a pas mal de gens qui nous ont m'ont rejoint. Et en fait, à chaque fois qu'ils font une activité sportive, leurs kilomètres sont automatiquement ajoutés à hauteur de 10% sur le grand compteur national des 9300 km.
Alors, au-delà de l'accumulation des kilomètres, l'objectif derrière, c'est donc aussi cette récolte des rêves des participants. Quelle forme ça prend, cette collecte ?
Après chaque défi, en fait, on a le public qui écrit son rêve sur un petit ruban. En lien avec l'activité qui a été organisée. Donc là, sur une activité tennis, nous, on a fait des rubans avec des balles, avec des raquettes. Si je prends l'exemple de Tignes, ils ont fait des rubans avec des flocons de neige, avec des montagnes. Les enfants écrivent leurs rêves sur le papier, ils le collent sur la fresque, et du coup, ça crée une grande fresque solidaire intergénérationnelle, et on a déjà, comme je le disais tout à l'heure, plus de 550 rêves qui sont écrits dessus.
Mais cette notion de solidarité, c'est vrai qu'elle est toujours très présente hein, dans vos événements. Donc l'année dernière, il y avait effectivement ce grand défi autour du harcèlement scolaire. Ici, là, donc, on parle de kilomètres solidaires, du mur des rêves solidaires. Et qu'est-ce qu'elle signifie concrètement, cette solidarité ? Solidarité avec qui, finalement ?
Solidarité entre les êtres humains, tout simplement, entre les passionnés de sport et les passionnés de grandes relations humaines, j'ai envie de dire. On est dans une société où c'est un peu compliqué, où beaucoup de gens se tapent un petit peu les uns sur les autres. Il y a beaucoup de jalousie, beaucoup d'individualisme. Et en fait, à partir de ce projet-là, l'idée, c'est de créer quelque chose qui soit solidaire, donc qui rassemble les gens et que tout le monde aille dans la même direction. C'est-à-dire que voilà, là l'objectif commun, c'est ces 9300 km vers Los Angeles. Peu importe la performance sportive, on s'en fiche totalement. L'idée, c'est de faire du sport, de faire une activité et de contribuer à son échelle à être acteur finalement des Jeux de Los Angeles 2028. Et si on arrive à ces 9300 km, parce qu'on a déjà fait plus de 10% en simplement 3 mois, il reste plus de 2 ans maintenant pour arriver à la totalité et à l'échéance globale. Si on arrive à cet objectif-là, le nouvel objectif sera indirectement d'aller vers les Alpes 2030 et de faire le chemin retour, puisque là on voit que ça prend vraiment partout, en Sarthe, en région Pays de Loire, en région Centre-Val de Loire, mais aussi dans les Alpes. Quoi.
Avant ce nouvel objectif 2030, quand vous dites c'est 9300 km vers Los Angeles, est-ce que ce vers Los Angeles, il faut aussi l'entendre au sens propre ? Est-ce qu'il y a un aboutissement à Los Angeles qui se construit ?
Pourquoi pas emmener la fresque lors de la cérémonie officielle d'ouverture des Jeux de Los Angeles 2028 ? Ça peut être une idée. Mais effectivement, là, on a un très bon lien avec le Comité National Olympique et Sportif Français. Donc l'idée, c'est de proposer tout type d'idées pour que justement ça donne des idées à d'autres associations, à d'autres clubs sportifs, à d'autres collectivités aussi, puisqu'on fonctionne énormément avec les mairies, avec les communautés de communes. Et à partir du moment où on se donne les moyens de réaliser des choses, je pense qu'il faut effectivement sortir de notre zone de confort d'éducateur sportif, à rester simplement sur un terrain et à donner ses prérogatives pédagogiques et avoir des résultats sportifs. En avoir, c'est très bien puisque ça fait partie du corps de notre métier, mais si on peut réussir justement à rassembler les gens par des initiatives et des événements qui rassemblent les différents publics, à ce moment-là, on aura tout gagné.
Je vous remercie Jean-Charles Reton, animateur sportif à l'Anibret Tennis et organisateur du Mur des Rêves Solidaires. 9300 km à réaliser d'ici les Jeux Olympiques 2028. Merci beaucoup.
Merci.
Radio Alpa, l'alternative.
On poursuit avec notre deuxième sujet. Vous avez trop chaud ? Alors venez faire du hockey sur glace. Dimanche 6 septembre, le Hockey Club du Mans ouvre ses portes. Pour faire découvrir ce sport à de potentielles nouvelles recrues, pour un premier tour d'horizon, nous posons nos questions au président de l'association, Romain Hérault. Bonjour.
Bonjour.
Alors d'abord, on précise que c'est le seul club de hockey sur glace en Sarthe et vous êtes situé à la patinoire City Glass. Vous représentez donc tout le département pendant les compétitions auxquelles vous participez ?
Alors, on représente Le Mans parce qu'on est affilié. Du coup, on est le Hockey Club Le Mans. Du coup, il y a pas la partie Sarthe en fait, si vous voulez. Mais on a des adhérents qui viennent de tout le département, même les départements limitrophes. Donc, on essaie d'évoluer comme ça.
D'accord, donc vous représentez le Mans, mais vos adhérents voilà. viennent d'un peu
tout
partout
à fait,
autour.
Exactement, ouais.
Alors rentrons un peu dans le vif du sujet, le hockey sur glace, comment ça se joue? Expliquez-nous.
Alors comment ça se joue? Ça se joue en 3 périodes de 20 minutes pour la partie senior, avec des arrêts de jeu, c'est comme au foot, on a les hors-jeux, et après derrière on a ce qu'on appelle des pénalités, donc en fait dès qu'il y a une faute de commise, on va en prison, donc on prend 2 minutes ou pour une pénalité majeure 5 minutes, et derrière après l'objectif c'est de mettre le plus de buts possible, comme tous les sports collectifs, en sachant que c'est le sport collectif le plus rapide, et par contre la petite nuance c'est qu'on a des changements de ligne, donc on joue à 5 joueurs sur la glace plus un gardien, et les 5 joueurs peuvent changer en moyenne on va dire entre 45 secondes et toutes les minutes.
Alors on précise oui effectivement hockey sur glace parce qu'en fait ça peut se jouer sur plusieurs terrains, c'est les mêmes règles sur gazon et sur glace?
Non, ce n'est pas du tout les mêmes règles, c'est déjà pas la même surface dans le sens où la taille du terrain est complètement différente et du coup on n'est pas du tout sur les mêmes règles de jeu.
Et vous disiez tout à l'heure que c'est le sport d'équipe le plus rapide.
Oui,
qu'est-ce que vous entendez par là?
Bah c'est le sport collectif le plus rapide au monde. Mais le hockey sur glace.
Le plus rapide, c'est-à-dire les joueurs
sur les déplacements,
le plus rapide,
voilà, sur les déplacements, tout à fait. Ouais.
Okay. C'est un sport originaire du Canada qui s'est aussi développé en Amérique du Nord.
Oui.
En Europe et en France, il reste plus marginal pour l'instant.
On est le troisième sport indoor avec le plus d'affluence, donc c'est quand même une belle progression par rapport à ces dernières années. Pour faire un petit peu le parallèle, c'est sur tous les matchs pro, donc il y a plusieurs championnats. Il y a la Ligue Magnus pour l'équivalent de la Ligue 1 au foot, la D1, l'équivalent de la Ligue 2, et après on descend en catégorie. Et en sachant qu'aujourd'hui en Ligue Magnus, on est quasiment plein à tous les matchs.
Ouais, la France par rapport à l'Europe, on se situe comment sur
on n'est pas dans le top des équipes, mais il y a une nette progression. On voit que la fédération accentue réellement pour qu'il y ait une progression sur ce ranking.
Le fait que ce soit sur glace, ça suscite l'a priori que peut-être les pays du Nord sont particulièrement bons. C'est un a priori
ouais,
ou c'est le cas?
Clair
non, c'est le
que
cas.
Les pays du Nord sont meilleurs que les pays du Sud, ça c'est sûr. Maintenant, ça dépend surtout des infrastructures pardon, dans le pays et du développement en fait, qui est mené par les fédérations.
Alors il faut pouvoir maîtriser à la fois le patin à glace, puisqu'on se déplace sur patin à glace, et la crosse. Ça doit demander une grande dextérité. Est-ce que l'apprentissage de ce sport il est difficile?
Alors l'apprentissage il est particulier, il n'est pas difficile, il est particulier dans le sens où c'est vraiment un sport passion, où on a tendance à, une fois qu'on est dedans, on a du mal à en sortir. Et du coup, l'avantage, c'est qu'on arrive à commencer le hockey à partir de 3 ans. Et à cet âge-là, en fait, c'est très très facile l'apprentissage parce que on se pose pas les mêmes questions que nous adultes.
On a beaucoup moins peur.
On a beaucoup moins peur. Et en plus de ça, on a vraiment un niveau de protection qui est à la hauteur de du challenge.
Donc les joueurs de hockey sur glace en général, c'est des joueurs qui ont commencé très tôt, ou est-ce qu'il y a aussi des joueurs qui viennent d'autres disciplines, le foot par exemple?
Ouais, tout à fait. On a une tendance là sur les dernières années à récupérer pas mal de personnes du foot. Après, sur la partie analyse, je n'ai pas d'analyse par rapport à ça, mais c'est vrai qu'on a tendance à récupérer pas mal d'enfants qui ont eu un peu de mal à s'intégrer dans des équipes et qui là trouvent vraiment leur bonheur.
Le hockey sur glace, c'est aussi un sport de contact,
oui.
Un sport où on file à toute vitesse sur de la glace avec des patins en se rentrant dedans. C'est pas un peu dangereux quand même?
Alors justement, donc nous on a une particularité au Mans, c'est que notre patinoire n'a pas de plexiglas. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de sport contact au Mans. Il y a forcément un peu de contact, mais il n'y a pas de charge. C'est-à-dire que déjà, pour commencer, les charges, c'est à partir de U15 sur le championnat de France. Et toutes les catégories inférieures n'ont pas de charge. Sauf que, vu qu'il n'y a pas de plexiglas, c'est-à-dire de verre de protection qui monte jusqu'à une certaine hauteur, on ne peut pas avoir cette pratique au Mans. Donc, on est sur des championnats en 3-3. Pour les deux U15 jusqu'à U20. Et en fait, on joue à 3-3, c'est-à-dire qu'on a 3 joueurs, un gardien. Et les règles sont un petit peu différentes, mais par contre, il n'y a pas de contact. Donc, c'est que des serrages, il n'y a pas de charge. Par contre, c'est beaucoup plus dynamique et très technique. Et derrière, pour nos seniors, en fait, on est en trophée loisir. Et là, c'est pareil, c'est un championnat qui n'a pas de contact.
Alors que des serrages,
serrages, ça veut dire qu'on a le droit en fait de toucher l'adversaire, de le pousser vers la bande, mais pas de le projeter.
D'accord. Et alors, il y a quand même des protections pour les joueurs.
Oui, tout
même
à fait.
Si c'est, pas dans contact,
les joueurs, ils sont vraiment protégés. C'est-à-dire qu'on va du casque jusqu'au plastron, coudière, gants, shorts de protection et jambière. Donc là, déjà, on a quand même une bonne panoplie pour être tranquille.
Oui, les gants, on imagine que c'est particulièrement essentiel. Si on tombe, il ne faut pas se faire couper les doigts par
ouais,
un patin.
Exactement.
Au Hockey Club Le Mans, quel est l'esprit ? Est-ce que vous êtes dans une démarche compétitive, combative ou plutôt dans le jeu, le divertissement ?
Alors, les deux. Parce qu'en fait, donc moi, c'est notre troisième année dans le mandat. Et en fait, je suis licencié au Hockey Club Le Mans depuis 2002. Sauf qu'en fait, avant, on avait quelques compétitions. Donc, on a forcément un esprit compétition. Et derrière, en fait, on essaye d'allier la partie plaisir, c'est-à-dire le jeu, autour du jeu pour les enfants, tout en gardant quand même la partie apprentissage du hockey sur glace afin d'être au plus près des attentes de la ligue aussi et d'être raccord avec les systèmes de formation des clubs voisins. Quoi.
Donc, vous avez commencé en 2002, donc vous votez vos 25 ans au hockey club l'année prochaine.
C'est ça, tout à fait, ouais. C'est ça.
Et donc vous participez tout de même à des compétitions. Quelle compétition en particulier pour
Alors,
le hockey club du Mans ?
Toutes nos équipes sont engagées en championnat. Donc on a U7, on est ce qu'on appelle des faire plaisir, c'est des petits tournois. À partir de U9, on est aussi, U9, on est aussi en tournoi. Et à partir de U11, on passe en tournoi une partie de l'année. Donc on a plusieurs équipes qui viennent en mode tournoi sur des tiers de glace. Et après on passe en match grande glace. Donc c'est la découverte des matchs grande glace. Et après U11 dans le même cadre. Et U15, on passe en 3-3 avec des tournois sur avec les différentes équipes qu'on a dans notre pool.
En tout cas, l'esprit d'équipe, j'imagine, c'est au cœur de ce sport, comme dans beaucoup de sports d'équipe.
C'est ça.
Comment ça doit fonctionner ensemble, une équipe de hockey ?
Alors, une équipe de hockey, en fait, le but, c'est d'être tolérant les uns envers les autres. C'est-à-dire que c'est comme tous les sports collectifs, c'est pas forcément propre au hockey. C'est vraiment d'apprendre à connaître l'autre et d'accepter de jouer avec quelqu'un et de tout donner justement pour les personnes qui sont à côté de nous sur la glace.
Accepter aussi peut-être les appréhensions quand on est sur une équipe débutante qui apprend à jouer.
Tout à fait, ouais, c'est ça. On a vraiment une approche forte là-dessus, c'est que en fait on n'a pas de on cherche à faire jouer tout le monde. C'est que si on vient jouer au Hockey Club Le Mans, le but c'est pas d'être mis sur la touche en se disant il y a un niveau, il y a ça. Le but c'est vraiment d'aller au maximum de temps de jeu.
Et d'ailleurs, vous cherchez de jeunes recrues pour compléter quelles équipes alors ?
Toutes nos équipes, sauf notre équipe senior, nos équipes seniors où là on commence vraiment à être. On a refusé 15 personnes l'année dernière, donc c'est très complexe pour nous. C'est une première d'ailleurs. Mais par contre, à partir de 3 ans jusqu'à, on va dire, 13-15 ans, on est capable de recruter, et au contraire, on cherche vraiment, et après la partie cible, c'est vraiment de 3 à 7 ans. Quoi.
Et donc avec des portes ouvertes le 6 septembre, comment
Exactement.
Ça va se passer ?
Alors les portes ouvertes, en fait, c'est on a une partie accueil, après on a une partie prêt de matériel, et ensuite les personnes qui sont intéressées ont une séance d'un endroit sur la glace pour faire un patinage libre, et après on a tous nos encadrants qui sont là pour les accompagner sur divers ateliers.
Et si on ne brille pas sur la glace dès le premier essai, il faut abandonner ?
Pas du tout, non, c'est au contraire, et je pense que les personnes qui sont venues à la dernière porte ouverte au mois de juin en sont sorties très très satisfaites, dans le sens où les tout petits commençaient avec ce qu'on appelle des otaries ou des petits déambulateurs pour sur la glace, et en fait on s'aperçoit qu'au bout d'une heure, tout le monde a tout lâché et est parti pour s'amuser, donc on voit vraiment qu'il y a une évolution très facile, et il n'y a pas forcément d'appréhension à avoir.
Voilà, il n'y a pas forcément besoin de savoir d'office faire au moins du patin à glace pour faire du hockey.
C'est ça.
Et si on ne veut pas attendre le 6 septembre, est-ce qu'on peut vous contacter pour des informations ou une séance d'essai pendant l'été ? Le club ferme pendant l'été peut-être ?
Alors ouais, là on est fermé, cependant il y a les séances publiques, donc la patinoire elle est ouverte tout l'été. Là ça peut être intéressant justement pour commencer à faire une petite approche rien que sur la partie patin. Ensuite il y a même, City Glass organise même des stages de patinage au-delà de ça. C'est-à-dire que pour nous, c'est un atout, parce que derrière, ça veut dire que les gens arrivent sur la glace, ils ont déjà des notions qui sont plutôt intéressantes. Mais derrière, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Donc, on a notre site internet hockeyclubdumans.fr. Et derrière, il y a tous les formulaires de contact, il y a toutes les informations sur le site, ou sinon, on a notre page Facebook Hockey Club Le Mans, les renards.
Où on peut suivre toutes vos actualités d'ailleurs.
Exactement.
Je vous remercie Romain Hérault, président du Hockey Club Le Mans. Les portes ouvertes, on le rappelle, ce sera le 6 septembre au City Glass, à la patinoire City Glass. Voilà, c'est ça.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Radio Alpa, l'alternative.
C'est la fin de Sport en Sarthe. Merci d'avoir suivi cette émission que vous pouvez retrouver en podcast sur radioalpa.com avec toutes les précédentes dans les infos de la rédaction. Sport en Sarthe revient le 17 juillet. Ce sera même la dernière émission de la saison. Alors à très bientôt sur Radio Alpa, bien évidemment.